Vivez conscient. La vie est un art et le bonheur individuel et collectif est lié au respect de grands principes enseignés depuis toujours par les sages du monde entier. Cette émission passe en revue les grands domaines de la vie afin de montrer l'actualité des enseignements de sagesse ancienne. Bonjour David.
Bonjour Olivier.
Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle émission. Cette fois, nous avons décidé de la consacrer au thème de la pensée, la pensée.
Oui, un terme et un vaste sujet. On va essayer toujours de le présenter par rapport aux enseignements de la sagesse ancienne et essayer donc de mieux faire comprendre comment fonctionne cet outil. Parce que la pensée, Olivier, on devrait considérer la pensée comme un outil et pas comme ce que l'on est, n'est-ce pas?
Oui, je crois qu'il va falloir un peu un effort de clarification et de définition peut-être, parce qu'il y a plusieurs notions qui s'entremêlent dans cette histoire de pensée. Il y a le penseur, donc on se pose la question, qui est-ce qui pense? Alors on est obligé de se poser la question, qui suis-je? Est-ce que c'est moi qui pense? Le penseur, est-ce que c'est moi déjà? Est-ce que je m'identifie au penseur? Est-ce que je m'identifie à la pensée, à celui qui reçoit la pensée?
Quelle différence tu ferais entre... je ne suis pas sûr que les auditeurs aient déjà pensé, justement, ou aient réfléchi forcément à la notion de différence à faire entre le penseur et la pensée.
C'est ce qui voudrait dire que dans l'habitude, on s'identifie à la pensée. On pense que la pensée, c'est moi. Alors en fait, les enseignements de sagesse ancienne expliquent bien, quel qu'il soit, hein, explique bien la différence qu'il y a entre cet être qui s'incarne et les véhicules d'incarnation de cet être. Parmi ces véhicules, c'est du jargon évidemment, il faut aller voir ce que veulent dire les mots, hein, derrière les mots, mais c'est parmi ces véhicules donc un corps physique, bien sûr, que tout le monde connaît, qu'on voit, mais aussi un corps émotionnel et un corps mental.
Un corps énergétique aussi qu'on peut...
Un corps énergétique aussi,
physique,
oui.
Physique, donc un double énergétique. Un corps, alors un corps, c'est une façon, une sphère, une dimension.
En même temps, un corps énergétique, tout est énergie, donc c'est un peu, on pourrait dire éthérique. Peut-être un corps éthérique à ce moment-là. Ouais.
Émotionnel au-dessus et mental. Et donc nos pensées seraient créées dans cette sphère-là, dans la sphère mentale.
Ça serait littéralement de la matière mentale, un agrégat de matière mentale. On pourrait imaginer, donc qu'est-ce que c'est que la matière mentale? C'est de la matière ou c'est de l'énergie, hein, les matières, l'énergie, on connaît l'équivalence aujourd'hui. Qui vibre à un certain taux, donc un certain taux vibratoire, très très rapide par rapport à même la matière émotionnelle ou la matière éthérique ou la matière physique. Donc de la matière qui vibre à un taux très très rapide et un peu comme un océan en fait de matière. Et on peut imaginer qu'on puisse agréger, comment dire, rassembler une partie de ces matières, la concentrer, en faire une sorte de forme. Alors c'est peut-être de là que vient le mot forme pensée. On prend de cette matière, on en fait une forme et on appelle ça une forme pensée. Alors ça va être par exemple, je vais t'avoir un exemple, David.
Ce qu'on est en train de faire là en ce moment, on est en train d'essayer dans notre mental d'agréger des formes pensées, essayer d'avoir un discours cohérent. Nos différentes idées, de les avancer les unes les autres. Voilà, on est en train de faire travailler notre corps mental et on espère de faire travailler le corps mental de ceux qui nous écoutent.
Ça veut dire que si quelqu'un avait la vision, pouvait voir avec ses yeux ce qui se passe sur le corps mental pendant qu'on réfléchit, pendant qu'on pense, il verrait des sortes de formes.
Une activité cyclique.
Ouais.
Voilà, de choses comme tu dis qui se forment, qui s'agrègent, aussi qui se désagrègent. Et alors, on verrait aussi peut-être plus dans le détail comment sont faites nos pensées. On verrait peut-être qu'il y a une grande partie de notre imaginaire. Donc là, on touche à plutôt l'émotionnel, la dimension affective, sensible. Et en fait, il semblerait qu'il y ait une plus grande part même d'énergie qu'on appelle astrale, émotionnelle, revêtue ou mêlée avec un peu d'énergie mentale proprement dite, que nos pensées ou notre esprit, entre guillemets, serait un petit peu le résultat de ces choses-là, et que cet agrégat de pensées imaginaires, hein, de pensées créées avec l'imagination créatrice, justement, eh bien aussi s'enveloppe de matière énergétique, hein, au fur et à mesure, comme une descente, hein, comme une involution.
Mais tu veux dire de matière éthérique, hein, David?
Voilà, éthérique. Oui. Et donc, on en prend conscience quand cela arrive dans notre cerveau. Voilà comment, dans les enseignements dits ésotériques, qui traitent des choses cachées, on explique le fonctionnement, la formation de la pensée.
Ça veut dire qu'on ne perçoit la pensée qu'à travers le filtre de notre corps éthérique et de notre corps émotionnel.
On a tendance à l'écrire à partir de là. Alors, plus l'être va avoir une nature mentale proprement dite, plus sa conscience va être placée justement sur le corps mental et pas à partir du corps émotionnel, comme c'est en général la norme, à ce moment-là, il va créer des pensées qui sont plus intellectuelles proprement dites, qui sont plus mentales, qui sont moins colorées par la vie affective, la vie de désir, la vie idéaliste, imaginaire de l'individu proprement dit.
Est-ce que ça voudrait dire, David, qu'il y a une sorte de lien direct entre la pensée et le cerveau sans passer par les filtres de l'astral et de l'éthérique?
On pourrait dire qu'à ce moment-là, si l'astral, comme on l'appelle, et l'éthérique est assez neutre, au repos, oui, que la forme pensée va être essentiellement en grande partie de l'énergie mentale qui va, comme descendre, on disait, évoluer, qui va pénétrer notre cerveau et on va vraiment être pleinement conscient à l'état de veille de toute cette activité qui se produit. Il faudrait imaginer que ces différentes strates de notre être vivent ces vies-là, cette activité-là se vit par elle-même, et que quand on crée proprement dit une pensée jusqu'à sa concrétisation, c'est quelque chose qu'on fait descendre en quelque sorte, qu'on conscientise dans notre cerveau. C'est un peu comme lorsqu'on dort. On dort, on se rend compte que ça pense tout seul. Hein, c'est ça un peu les rêves. Hein. Il y a une activité qui est en grande partie aussi astrale, on le sait, imaginaire, quelque chose qui se fait. Alors le cerveau en prend conscience, on sait, au réveil, en grande partie. On a l'impression que ça a duré toute la nuit, mais des fois, semble-t-il, ça n'a pas duré, des fois peut-être même quelques secondes, mais on sait qu'il y a des phases dans le sommeil où on rêve proprement dit, la phase paradoxale. Mais en fait, voilà, ça pense, ça fonctionne tout seul. Et donc le cerveau peut en être conscient ou pas. Et donc le rôle du cerveau par rapport à la pensée, ça serait de conscientiser dans l'état de veille cette activité psychique. Alors tu nous as pas répondu, Olivier, qui serait le penseur?
Alors selon ces enseignements de sagesse ancienne, ça serait donc l'être qui s'incarne. Donc on peut donner plusieurs mots à ça. Généralement on emploie le mot âme. On peut certainement trouver d'autres mots, hein, selon les traditions. Donc, ça serait une activité de l'âme, donc de l'être qui utilise ses véhicules d'incarnation pour pouvoir vivre une expérience sur Terre, mettons.
Alors, ce que l'on sait, c'est que la différence qu'il y a avec l'animal, c'est que nous, on a une âme individuelle. L'animal n'a pas d'âme individuelle. Le chien, quand il est en train de boire de l'eau, ne se dit pas « je suis en train de boire de l'eau ». Il s'aboie de l'eau. Il vit la sensation, etc., mais il n'a pas la conscience d'être un être individuel qui est en train de boire de l'eau. Et cette conscience-là individuelle, donc ça serait le penseur. Nous, on serait habité d'un penseur. Ce qui ne veut pas dire que le penseur agit toujours et crée lui-même ses pensées. C'est ça la différence. C'est que pour celui qui a le contact avec ce penseur, il peut créer des pensées qui vont vraiment émaner directement de ce penseur. Donc des pensées qui vont être claires, lumineuses, puissantes, vibrantes, souvent universelles, collectives, avec une force tellement grande que, comme un Christ ou un Bouddha, on parle de ces gens-là des siècles encore après. Hein, donc on peut dire qu'eux ont vraiment pensé à partir de leur âme. Alors qu'en général, nos pensées, ça pense tout seul, comme dans le rêve.
On n'est pas maître, hein.
On n'est pas maître dans sa maison, comme disait Freud, hein. Le moi n'est pas maître dans sa maison. Ça se produit, ça se fait. Et on peut le dire, en plus, on est en plus largement, on le verra en deuxième partie d'émission, largement influencé par l'inconscient collectif.
Est-ce qu'on pourrait dire que cette différence entre une pensée consciente, quelque part, et une pensée qui vient d'elle-même, est-ce qu'on peut faire un rapport avec les différents niveaux de pensée? Parce qu'il y a différents niveaux de pensée. On peut penser de façon très concrète, Par exemple, bah, attention, si je veux avoir mon train dans un quart d'heure, faut que je parte dans 10 minutes. Il y a tout ce calcul, ce mental qui nous permet de faire des listes, de faire des comparaisons, de gérer notre vie matérielle et concrète, hein, de résoudre un problème de mathématiques, par exemple. Et puis, il y a aussi tout un aspect du mental. Qui est beaucoup plus abstrait, qui va avoir un contact avec l'intuition et qui va capter des idées géniales, géniales en ce sens qu'elles sont inconnues, nouvelles, complètement nouvelles, et qu'on va essayer ensuite d'incarner dans la forme. Donc il y a différents niveaux de pensée comme ça, David, aussi, non?
Oui, c'est vrai. En ce sens qu'une différence peut être faite entre l'activité automatique, par exemple prendre son train, tout ça, on voit qu'on fait par exemple plein d'activités machinales. Et les neurologues se sont rendus compte qu'il y a une partie du cerveau qui est peu utilisée ici, c'est le cerveau préfrontal, hein, qui est juste donc derrière le front, hein. Pour faire un acte conscient, il faut que il faut que la conscience soit présente et pas l'automatisme. Et à ce moment-là, on se rend compte que la partie du front, qui correspond à un centre énergétique dont on parle dans les traditions, hein, le centre du front, est à ce moment-là impliquée, elle est active. C'est-à-dire que le geste, ou la parole, l'écrit, tout ce qu'on fait, est accompagné de cette conscience. Et là, on peut dire que le penseur participe à la pensée, à l'imaginaire, s'il y a un travail à produire, et s'il y a un imaginaire à faire, ou à l'acte lui-même, la parole. Il y participe. Ou alors c'est automatique. Et on sait que c'est une partie du cerveau, on appelle ça tout ce qui est sous-cortical. C'est machinal, c'est automatique, c'est des réseaux, des connexions qui se font elles-mêmes. Donc voilà, déjà la conscience peut participer ou pas. Mais comme tu le dis dans la pensée abstraite, là, il faut forcément impliquer la conscience. Et là, c'est la conscience du soi ou de l'âme qui, en termes platoniciens, on pourrait dire, vit dans le monde des idées. Hein? Dans le monde abstrait, le monde des archétypes.
Bon.
Où là, notre âme participe à ce monde-là, et donc elle peut nous transmettre, nous ramener, nous révéler des éléments du monde des idées.
Vivez conscient, nous nous retrouvons pour cette émission consacrée au thème de la pensée avec David. David, on a essayé de définir un petit peu la nature de la pensée, la nature de nos différents corps d'existence, la différence entre le penseur et ses véhicules
Ces
d'incarnation,
outils.
ses outils. On en était à parler de la conscience. Quelle est la différence entre le penseur et la conscience?
Ben, moi, j'en ferai aucune, justement. Je dirais que le penseur, la conscience, l'âme, le soi, l'observateur, etc., tous ces termes qu'on trouve dans les traditions indiennes, par exemple, hein, mais dans toutes les traditions du monde entier, c'est donc la partie de nous-mêmes qui est pure conscience, justement, et qui n'a pas besoin de se manifester à travers une pensée, une émotion, une sensation pour être. On pourrait dire que c'est ça la conscience. C'est le fait d'être vraiment, bah, conscient de soi-même, des choses, des êtres, mais
Donc
sans qu'on ait besoin de produire quelque chose.
c'est un être qui aurait la faculté d'être conscient.
D'être en relation. Voilà. Être conscient ou être en relation, c'est synonyme. Donc, par exemple, dans la méditation, on s'isole dans cette partie de notre être et on se rend compte qu'on est non seulement conscient, mais qu'on est surconscient. On a une conscience développée, une supraconscience, au-dessus de la conscience de veille, au-dessus de la conscience du rêve, dans une forme un petit peu similaire à la conscience profonde, hein, comme en rêve profond, sauf que quand on est en sommeil profond, pardon, on ne rêve pas, sauf que là, on n'est pas conscient. Alors que là, on ne rêverait pas, on ne produirait rien, mais on est dans cet état de conscience, d'être là. Donc voilà, ça serait ça, la conscience, le penseur, le soi. Mais ce penseur, cette conscience peut se mêler et utiliser ses outils. Et à ce moment-là, si cette conscience crée une pensée, on peut bien imaginer que la pensée va être bien différente de toutes les pensées automatiques qui se créent d'elles-mêmes, ou les
On arriverait
pensées
là à des pensées
émotionnelles.
de nature supérieure, comme l'intuition, les grandes idées géniales, etc.
Ou même si elle prenne forme dans notre corps mental, dans notre outil, elle est d'une grande clarté, d'une grande lumière, d'une grande force, et elle va avoir un impact, on le disait, comme on citait Platon, le Christ, le Bouddha, Mozart, etc., tous ceux qui ont eu accès à ce monde-là, et ce qu'ils ont produit a laissé une grande empreinte, parce qu'il y avait, on reconnaît la grandeur et la qualité du personnage à ce qu'il crée, en fait. Donc voilà la différence avec, tu es bien d'accord, Olivier, toutes nos petites réactions psychiques, on va dire, que l'on a tous les jours, et qui sont en plus à moitié avortées.
Donc, ils sont quasiment des choses qui arrivent automatiquement, qui sont le fruit de conditionnement, de peur, de réactions émotionnelles.
Ou d'habitude mentale aussi. Par exemple, on ne réfléchit pas pour marcher. C'est un automatisme, c'est une activité, comme on dit justement, au niveau du cerveau qui est sous-cortical. Hein, mais quand on commence quand on fait du sport, un apprentissage, la danse, n'importe quoi, même au niveau du corps, on commence à, ou du tai chi et autres, on essaie de devenir conscient, on voit que tout ce qui se faisait machinalement doit être de nouveau accompagné d'une autre énergie, c'est la conscience. Et ça, on peut le mettre au niveau physique, on peut la mettre sur nos émotions, et la conscience peut observer ces émotions, et on peut aussi la mettre sur nos pensées. Et donc à ce moment-là, si la conscience décide elle-même d'agir, c'est sûr, au niveau physique, émotionnel, mental, on peut bien considérer que le résultat va être différent de quelque chose de machinal, d'automatique.
Donc la conscience ou l'âme, mettons, peut avoir un regard extérieur sur cette pensée, cette petite pensée, hein, au niveau inférieur, qui se déroule comme un automatisme, et la voir. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec? S'en détacher ou quoi? Ou...
Alors là, justement, plusieurs solutions sont possibles. La conscience, donc, si elle permet d'être consciente, comme son nom l'indique, à ce moment-là, elle peut se rendre compte que certaines pensées vont pas être correctes. Certaines émotions non plus. De façon générale, j'aurais tendance à dire même que l'émotion est quelque chose d'illusoire. On confond avec l'amour, par exemple, hein. L'amour, ce n'est pas une émotion, mais on confond constamment l'amour et l'émotion. Donc on peut se rendre compte qu'on a toutes sortes d'émotions.
Donc l'amour serait une qualité de cet être, de cette âme
De cette
profonde
âme,
que nous sommes
oui.
au fond nous-mêmes, l'amour avec un grand A, disons, hein.
La conscience et l'amour sont synonymes dans les enseignements, hein.
D'accord, donc ce n'est même pas une pensée,
Non,
c'est un
c'est
état
un état,
d'être.
voilà. Donc à ce moment-là, voilà, on va se rendre compte que des choses que l'on fait, que l'on dit ou que l'on pense, peuvent être incorrectes. Et à ce moment-là, comme tu le disais, on peut choisir de ne plus nourrir. Alors, c'est justement, il y a un truisme, un axiome dont on parle souvent. Si tu peux nous le commenter, Olivier, c'est l'énergie suit la pensée.
Alors ça signifierait que chaque plan vibratoire ou plan de matière, comme on essaie de dire au début, hein, a une force, un impact sur les plans inférieurs et peut émettre et va avoir un effet, hein, une conséquence. Donc si on pense au niveau mental, quand on dit l'énergie suit la pensée, c'est là où il y a une ambiguïté dans les termes, hein, c'est qu'on parle d'énergie éthérique, hein, généralement, hein. Donc on va dire si on pense quelque chose, donc c'est une activité de la matière mentale, et donc une activité de notre corps mental, va avoir un impact, un effet sur notre corps énergétique. Et donc on va pouvoir, je ne sais pas, par exemple dans le domaine de la santé, on va pouvoir être en meilleure santé si on a de la pensée positive par rapport au fonctionnement de notre corps. Parce qu'on sur le au niveau de notre corps éthérique, on va induire un schéma plus favorable à la santé.
Donc le corps éthérique pour les auditeurs, c'est un double subtil. Alors on parle de chakras, de vortex, il y en aurait sept principaux, il y en a d'autres dans les articulations, il y a tous ces méridiens, ces courants d'énergie, ces points d'acupuncture qui sont des points relais au niveau de tous ces trajets-là. Donc, et puis un corps beaucoup plus grand, une continuité de ce corps subtil qui est à l'intérieur du corps physique, hein, qui serait un petit peu plus large, environ 1 mètre, 1,50 m autour de nous, hein, comme à 360 degrés. Donc notre pensée pourrait agir, c'est ce que tu nous expliques, Olivier, sur ce double subtil. Et en fait, il agit, semble-t-il, naturellement, parce que tu es en train de nous expliquer le processus même psychosomatique de façon positive ou négative.
Oui, et puis il semble qu'il puisse aussi, et comme ces différents corps ne sont pas séparés les uns des autres, la pensée va aussi avoir un impact sur Bah, le corps du voisin, ou le corps de notre compagne, ou de nos enfants, ou de nos proches.
Donc on verra après pour l'aspect collectif, on va essayer de continuer de bien comprendre comment l'homme est fait. Donc en fait la psychosomatique, c'est donc tout ce qui est psyché, on a vu, c'est le mental et la dimension émotionnelle ensemble, forment des formes pensées souvent amalgamées. Et le passage, le fameux liant, le chaînon manquant avec le corps physique, hein, donc nos nerfs, nos différents organes, notre système nerveux, notre cerveau, ça serait ce corps subtil, énergétique, qui gainerait nos nerfs, donc pour les méridiens et puis pour nos glandes, ça serait ces fameux chakras. Donc par ce corps subtil, donc nos pensées pourraient affecter notre corps, en bien ou en mal.
Oui, tout à fait.
Donc soit on peut se rendre malade, soit on peut se guérir, ou participer en tout cas à sa guérison. C'est un petit peu d'ailleurs ce que beaucoup de médecins, thérapeutes, encouragent, hein, c'est-à-dire la visualisation créatrice, tout le travail pour accompagner la guérison. On sait bien qu'au niveau de la neuropsychologie, qu'on peut accompagner des régénérations comme ça de tissus ou même de tissus nerveux, des connexions pour la rééducation. On sait que c'est important de visualiser, que ça fait marcher le cerveau, même allongé, on peut faire marcher le cerveau comme si on se déplaçait. Enfin voilà, on a une action donc beaucoup plus grande que qu'on le croit sur notre corps en fait.
Des études ont été faites, par exemple, sur les personnes qui pratiquent la méditation. On s'est aperçu qu'effectivement, elles avaient une meilleure santé que les autres, hein, une plus grande capacité à rester en santé. Ça a été démontré, hein, de façon scientifique.
Alors, ça touche au thème des ondes, hein, cérébrales, hein. Il y a des ondes qui correspondent à la conscience de veille, des ondes qui correspondent au sommeil paradoxal, hein, et puis des ondes beaucoup plus profondes, enfin, qui sont en fait en gamme de fréquences plus élevées, qui correspondent donc à ces états de conscience supérieurs. Ça se vérifie dans le cerveau.
Est-ce qu'on pourrait parler un tout petit peu d'un thème peut-être voisin, c'est celui de l'intuition. Quel est le rapport entre l'intuition et la pensée, en fait? Il semblerait que l'intuition soit vraiment de nature quand même assez différente, c'est-à-dire que l'intuition serait quelque chose qui émane de l'âme et qu'on va, nous, personnes incarnées, on va le capter. Avec notre mental, donc ça va redescendre au cerveau, ben, comme tu as décrit tout à l'heure, et on va le sentir comme étant juste.
Alors, je pense qu'on peut faire trois niveaux voire trois niveaux au niveau de, proprement dit, donc de notre corps mental ou même spirituel. Il y a la pensée proprement dite, donc on a vu, soit elle fonctionne toute seule, soit l'âme y participe pour créer, on va dire, une belle pensée, hein, une pensée lumineuse, mais ça reste de la pensée. Il y a les idées, on en a parlé déjà, c'est dans le mental ou dans le supramental, dans le domaine de l'âme individuelle, on va dire. Là où l'âme peut capter justement toutes ces idées, ce monde des archétypes. Et puis un petit peu, donc il y a différents niveaux, semble-t-il, à l'âme. Et dans un niveau supérieur, il y a le plan intuitionnel, le plan de l'intuition, où là, contrairement au monde des idées, dans le monde des idées, ça a une forme quand même, même si c'est très, très abstrait. Par exemple, l'idée du triangle isocèle. Ça, c'est une idée. Il y a l'idée de la fraternité, des grandes idées comme ça qu'on peut traduire après en phrases, en mots, en écrits, et ça c'est des pensées incarnées, mais avant il y a une idée derrière. L'idée elle est synthétique. Et il y a quelque chose de plus subtil, c'est l'intuition. Alors là, l'intuition elle descend, dit-on, c'est même pas dans le cerveau, c'est souvent on a cette idée que l'intuition descend dans le cœur. C'est quelque chose qui traverse. Donc le mental, supérieur, inférieur, donc le monde des idées, le monde des pensées, traverse le cerveau qui est relié à ce mental. Et en fait, ça, c'est plus reçu par le corps astral quand il est paisible, et lui, il le transmettrait au cœur. Et ça serait la connaissance du cœur, directe, intuitive. Le cœur dont il est question, c'est souvent le cœur spirituel, hein, qui est à un chakra, un centre d'énergie qui serait à droite du corps, c'est pas l'organe du cœur. Et lui nous donnerait une connaissance innée, intuitive, c'est-à-dire directe, spontanée. On n'a pas besoin d'élaborer, on le sait. C'est la connaissance des choses élevées d'elles-mêmes, directe. Donc c'est assez rare quand même. On est rarement en contact, c'est un haut niveau de perception. Donc on a essayé un petit peu de parler, d'évoquer notre fonctionnement de pensée, et on a commencé à voir que notre sphère, notre dimension psychique pouvait être en relation avec notre corps par justement le chaînon manquant dont on parlait tout à l'heure, c'est notre corps énergétique. C'est une sorte de liant, de pont, qui fait que nos pensées peuvent agir physiquement. Sinon, c'est vrai que ça paraît un petit peu difficile à concevoir, hein. Sauf si on considère qu'on n'est qu'un cerveau et que tout se passe dans le cerveau et que c'est que des réactions chimiques. Mais en fait, on sait très bien qu'on a, en plus de toutes ces réactions chimiques, des images. Donc il y a bien un monde d'images, il y a bien un monde psychique qui est traduit, qui est reçu par le cerveau. Donc voilà, cette pensée, elle peut agir, on l'a vu, par un phénomène, on pourrait même dire psychosomatique, on pourrait même dire psycho-énergétique et somatique. On peut donc se rendre malade, on peut participer à sa guérison, donc l'impact de la pensée sur le corps. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme façon d'utiliser comme faculté mentale, Olivier?
Après, si on a dit aussi que l'énergie suivit la pensée, on peut dire aussi que la pensée, c'est de l'énergie dirigée. Donc cette forme pensée qu'on a créée, on peut ensuite la diriger pour obtenir un effet particulier. Donc par exemple, les phénomènes de télépathie ou les phénomènes de télékinésie. Quand on voit Uri Geller tordre une petite cuillère par le pouvoir de sa pensée, il y arrive, quoi. Donc ça se produit, ça se passe, ça marche.
Oui, on touche un petit peu au phénomène qu'on appelait avant la magie et qui semble être tout simplement des lois de la pensée et de l'énergie, parce que c'est lié. Et donc, pour expliquer ce que tu nous dis là, Olivier, c'est le penseur ou celui qui arrive donc à produire donc une forme pensée suffisamment forte, traverse le corps énergétique et arrive à agir puissamment sur le plan physique qui est fait de gaz, de liquide, de solide. Il arrive donc avec son corps énergétique, hein, vitalisé par sa pensée, il arrive donc à produire donc des actions télékinésie, ça veut dire télé, c'est à distance. Hein, l'idée, et puis kiné, c'est le mouvement, donc on peut tordre des choses, déplacer des objets, etc. Alors, il semblerait même qu'on a parlé pour les yogis de capacité de pouvoir faire apparaître des choses ou d'accélérer la pousse d'une fleur, d'arrêter son cœur, ça fait partie de toutes les capacités sur le corps, hein. C'est assez surprenant. Donc ça, c'est une action, ou alors il peut y avoir échange d'informations.
Donc ça, c'est la transmission de pensée, alors.
Voilà, télépathie. Donc ça marche dans les deux sens, hein, émetteur-récepteur en quelque sorte.
Oui, on a évoqué au départ que la pensée survenait dans une sorte d'océan de matière qu'on appelle la matière mentale. Et donc dans cet océan, bien sûr, les choses peuvent entrer en lien. Il y a une matière, un vecteur pour que ces formes pensées puissent se rejoindre.
Tout ça demande un substrat, c'est l'espace, qui ne serait pas un espace vide, hein, mais un espace plein à différents niveaux. Il y aura un espace, il y aura une couche de l'espace ou une dimension de l'espace qui serait éthérique, une autre émotionnelle, une autre mentale, une autre même spirituelle, et que des échanges se feraient au sein de cet espace.
Donc la transmission de pensée se produit lorsqu'un penseur émet une idée, donc il crée une forme pensée sur le plan mental, et qu'une autre personne,
par affinité
vibratoire au niveau de son corps mental, va capter cette forme pensée dans l'océan de la matière mentale et faire sienne cette idée. Et il va même être persuadé, dans la plupart des cas, que c'est son idée.
Oui, alors qu'on voit bien que des idées s'échangent sans qu'on en soit vraiment conscient, ça circule.
Oui,
un petit peu sur le net, c'est pareil, hein.
On connaît l'idée l'histoire du syndrome du centième singe, hein, où on sait que les découvertes scientifiques se produisent simultanément aux quatre coins de la planète sans qu'il y ait de lien entre les scientifiques entre eux. Donc c'est qu'il y a une réalité derrière cet océan de matière mentale qui explique la transmission de pensée.
Donc voilà, si on considère que l'on n'est pas séparé, mais que tout est déjà uni, on n'a pas à unir la chose est unie, mais si on en prend conscience, on peut à ce moment-là se rendre compte qu'on échange constamment des pensées ici et là. Peut-être que les auditeurs en ont fait expérience avec un ami ou une amie. On y pense et les deux personnes pensent à l'autre au même moment et ont la même pensée. Alors parfois, il y a même des phénomènes de clairaudience. On peut même presque entendre la voix de l'autre, hein, dans l'oreille. Ou alors on peut même le discerner. Il y a aussi des capacités de voir à distance. Tout ça reposerait sur cette notion d'espace commun, psychique et énergétique. Donc dans lequel on baignerait tous comme des poissons dans l'océan.
Et le phénomène de télépathie aussi, peut-être quelques mots là-dessus, qui consisterait pour un penseur à émettre une idée depuis son mental, mais à travers le chakra, en focalisant son attention sur le chakra ajna, donc le chakra qui est entre les sourcils. Et cette idée sera envoyée sur le chakra de la gorge de la personne censée la recevoir, et qui va pouvoir à ce moment-là recevoir par ce chakra cette idée et via le cerveau s'en produire une image.
Alors il y a beaucoup de tests hein, qui se font. Alors en France, c'est pas pris au sérieux les recherches paranormales malheureusement, où on parle aussi psychophysique, c'est intéressant. Mais dans d'autres pays, en Grande-Bretagne et
Et en,
ailleurs,
en Russie, bien
en
sûr.
Russie bien sûr, aux États-Unis, c'est pris très au sérieux. Il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine et on se rend compte de l'énorme potentiel humain. En fait, on ne connaît pas notre potentiel total, Olivier. On l'utilise qu'à 10%, semble-t-il.
Ouais, on n'utiliserait qu'une très faible partie du cerveau.
Donc voilà, on va faire une petite pause et on va revenir et élaborer un petit peu plus sur la dimension collective de la pensée.
Vivez conscient, on se retrouve après cette pause sur ce thème de la pensée. Alors, on a évoqué plutôt la pensée au niveau individuel jusqu'à présent. Et on pourrait maintenant faire un petit tour d'horizon de son impact au niveau du collectif. Hein. À la fois peut-être du collectif humain et aussi peut-être son impact sur peut-être les autres règnes de la nature, puis la nature elle-même.
Alors justement, Olivier, est-ce que la culture, c'est pas la culture d'un pays, d'une nation, on voit même que c'est parfois même lié à une région, est-ce que c'est pas le résultat de tout ce dont on est en train de parler là?
Est-ce que ce serait la somme et la moyenne ou la somme de ce qu'éprouve chaque individu de cette région, par exemple, et qui, collectivement, si on fait une sorte de moyenne comme ça, il en ressort une culture, on va trouver des points communs. Pourquoi? Parce qu'ils baignent dans le même océan de pensée, de culture, d'histoire,
Oui, ils
d'antériorité.
participeraient à un même, ils nourriraient un même agrégat de pensées, des pensées assez similaires, très locales, on va dire.
Donc, liés à leur environnement, par exemple, si c'est des cultivateurs ou des gens qui vivent dans une montagne aride, ils ont forcément un type de préoccupation quotidienne qui se rapproche, commune.
Oui, donc il y a là, donc là tu parles du paysage proprement dit, hein, du climat et autres. Il y a l'histoire aussi très ancienne du lieu qui peut affecter. Et puis, il y a aussi l'énergie du lieu en elle-même. Hein. Si on pense que l'homme est un centre d'énergie, il y a aussi des centres d'énergie sur la planète, un petit peu partout, des grands, des petits, et que voilà, c'est telle partie a une spécificité. C'est toujours ce concept de l'unité dans la diversité. Et donc, ce qui est vécu sur ce sol-là est coloré par cette empreinte, cette ambiance, cette énergie. Donc, l'homme participerait aussi à ce niveau-là en créant la culture du coin. La culture d'un pays, ça c'est évident. Hein. On va pas confondre un Américain avec un pays d'Afrique
Mais en même temps, dans
avec un
la
Russe.
création d'une culture, d'une civilisation, on voit quand même poindre ce qu'on appelle quelquefois des initiés dans certains jargons, des êtres ou des personnalités, des personnages de l'histoire, et qui sont un peu des gens marquants, quoi, hein, pour la création d'une culture, et qui ont été peut-être plus que d'autres capables de clairement mettre en avant certains aspects particuliers qui vont être les marques de cette culture en question.
Oui, ils balisent en quelque sorte, ce sont des phares. On s'y réfère d'ailleurs, après on érige des statues, des documents, etc. sur ces gens-là, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs cycliquement qui viennent comme ça et qui reprennent le meilleur du passé et qui apportent souvent quelque chose de nouveau, de créatif. C'est là qu'on voit la dimension avec les formes pensées lumineuses dont on parlait au début, hein, celles qui sont créées par une âme, par quelqu'un qui est vraiment en lien avec le penseur. Sa conscience supérieure.
Donc ces initiés-là seraient en fait des penseurs qui auraient davantage de capacité à manier la matière mentale et plus clairement exposer au monde, par exemple, une nouvelle politique. Si on prend les pères de la création des États-Unis, un certain nombre de personnages politiques qui avaient une vision ferme de ce qu'ils voulaient et de l'orientation qu'ils entendaient donner à ce grand pays.
Je pense que c'est aussi la différence avec les petites pensées qu'on a de journalière. Alors, on disait au début d'émission que ça pensait tout seul. Hein, on pense sans le vouloir presque. Même si on veut arrêter de penser, d'ailleurs, on n'y arrive pas, ça pense. Et en fait, c'est comme des nouveau-nés ou des pensées avortées. Elles naissent pour mourir aussitôt. Elles ne sont pas entretenues. Elles sont pas forcément importantes non plus, parfois elles sont même très négatives. Et donc, on en créerait comme ça perpétuellement en nous. Même si on était clairvoyant, on pourrait voir dans notre aura, autour de notre tête, hein, dans ce fameux corps énergétique, on verrait toutes sortes de pensées qui ont des formes, des couleurs différentes, qui meurent et naissent parce que justement, elles ne sont pas nourries par la pensée. Donc, l'énergie suit la pensée. Si une pensée n'est pas nourrie, on lui retire une énergie, donc elle meurt, proprement dit. Donc on en créerait, donc on s'épuiserait beaucoup là-dedans, on ne serait pas très efficace. Et à contrario, ceux qui ont une meilleure maîtrise de leur mental réussiraient à créer des pensées claires, puissantes, que tout le monde puisse reconnaître, tellement elles sont claires et lumineuses. Elles ont un caractère universel, et donc elles passent comme ça à travers le temps, et elles sont même renforcées. Par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure de Mozart. Ce qu'il a créé était tellement beau, puissant, magnétique, qu'à chaque fois qu'on repasse Mozart, en quelque sorte, c'est le fruit de sa pensée, on le réactive, on le renouvelle. Hein,
Donc
on a un
on voit ça
exemple.
dans le processus créatif, il faut arriver à calmer la pensée, à se mettre en contact direct avec l'âme pour faire venir l'intuition et donc l'aspect créateur et novateur et génial que peut avoir quelqu'un comme Mozart ou un grand peintre.
Voilà, donc il y aurait des gens dans tous les domaines de la vie suffisamment créatifs, éclairés, on dit, hein, pour permettre d'apporter des pensées semences en quelque sorte.
Qui vont marquer une culture, une civilisation.
Mais Olivier, il y a aussi des pensées à ce moment-là qui sont très négatives et qui sont aussi alimentées par des groupes. Qu'est-ce que tu verrais comme exemple de pensée destructrice, ancienne même, toujours alimentée comme ça, hein, dont on ferait bien de se débarrasser?
Alors, est-ce que les pensées de racistes, par exemple, sont de ce type?
Oui, et puis le misogynisme, par exemple, le fait de concevoir que l'homme est supérieur à la femme, ce genre de bêtises.
Alors là, on rentrerait aussi dans le domaine du conditionnement historique, la façon de penser de nos parents qu'on reprend sans la remettre en question, sans même s'en apercevoir inconsciemment. C'est du
Voilà,
conditionnement.
on touche voilà au thème de l'illusion mentale, proprement dite, qui est souvent aussi mêlée d'émotionnel, et là on parle plus de mirage, hein. L'idée pour les différencier les deux.
Donc le mirage, ça serait l'activité du corps astral non saine, une sorte de brouillard créé par l'activité de nos émotions.
Une mauvaise façon d'utiliser l'imagination créatrice, parce qu'elle est aussi revêtue d'énergie mentale, hein. Ce sont des pensées-désirs proprement dites. Donc ça serait le mirage, et Dieu sait s'il est puissant. Donc pour moi, le racisme, toutes ces choses qui sont un peu nourries par la haine, par la. Le
La
ressentiment,
peur
la
de l'autre.
peur, etc., sont plus des mirages proprement dit. Et il y a des illusions qui sont purement mentales. Je pense par exemple dans le domaine scientifique, le fait de nier l'existence de l'âme, même si on l'a pas découverte ou qu'on n'a pas prouvé au moins que ça existait, on n'a pas prouvé que ça n'existait pas. Donc là, on peut être face à une illusion purement mentale, hein, un blocage, une inertie dans le corps mental, quelque chose de fermé. Donc l'illusion, c'est quand le mental se coupe lui-même de l'âme. Hein, il serait comme enfermé.
Ça empêche l'âme de voir la réalité, en fait.
Voilà. Si on est l'âme, qu'on veut regarder dans le monde, comme tu le dis, on est obscurci par notre mental, par notre corps émotionnel, par notre corps éthérique. Voilà. Donc le cerveau est un peu l'état, le résultat de ces dimensions-là en nous.
Alors, on a vu le rapport entre la pensée et la culture, une civilisation. Est-ce qu'il y a aussi un rapport entre la pensée humaine et la nature et la terre et les... On sait l'impact de la pensée sur les plantes, hein, tout de même, sur les animaux aussi. Enfin, on sait l'impact des hommes, donc l'impact de la pensée.
Ça se dit beaucoup, hein. Ben, on sait que si on met de la musique, les plantes ont une, semble-t-il, un corps astral, un corps de sensibilité suffisamment perméable, enfin élaboré pour permettre une influence. Alors chez les animaux, c'est encore plus clair, beaucoup moins chez les pierres, hein, qui ont plus développé un corps éthérique, mais pas encore vraiment un corps astral. Mais donc on pourrait agir. C'est ce que tu nous dis, Olivier, on pourrait agir sur le monde de la nature, de la même manière qu'on agit sur notre nature, à nous, corporelle. On parlait du phénomène psychosomatique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, collectivement ou même individuellement, on pourrait agir sur la nature?
Comment, je ne sais pas, mais il y a un Canadien qui avait écrit un livre, Rolf Alexander, je crois qu'il avait écrit un livre dans lequel il parlait du pouvoir de la pensée. Il y avait un chapitre consacré à cette faculté de dissiper les nuages. Et il y a certains sages indiens, par exemple Sri Aurobindo, pour ceux qui connaissent, qui a vécu au XXe siècle et qui pouvait éloigner un orage ou... voilà, et qui voilà, donc cette capacité existe. Ça ne veut pas dire qu'on sache la tout un chacun sache comment elle s'opère, mais donc ça montre un lien quand même entre le monde de la pensée, le monde du mental et ce qu'on appelle le climat, le temps, la nature en général.
Donc si on voit la nature comme un corps, et plus seulement notre corps individuel, quand des milliers, voire des millions de personnes pensent ensemble, émettent des pensées communes, donc on sait que par la loi d'affinité, hein, elles vont fusionner, elles vont s'amalgamer, ça va créer un égrégore, comme un nuage, hein, hein, comme les nuages dans le ciel, c'est aussi une belle image. Et à ce moment-là, c'est tellement dense, tellement lourd, que ça descend, ça s'approche du physique, hein, comme un nuage qui va se précipiter avec l'eau. Ça s'approche donc du corps, du plan éthérique, vibratoire, qui est simplement du plan physique mais plus subtil, hein. Et donc on touche à ce moment-là, on commence à agir à travers le plan éthérique, sur les chakras planétaires, sur les courants planétaires et sur les forces qui constituent donc la planète elle-même. Et on va agir sur l'élément air. L'élément feu, l'élément eau, l'élémentaire, sur les quatre éléments, et c'est comme ça qu'on a des. Comme l'explique par exemple Benjamin Crème, il est à mon avis assez unique dans ce domaine, un ésotériste anglais qui nous explique qu'à l'heure actuelle, une grande partie des dérèglements sont activés,
Climatique, hein.
climatiques. Alors donc, ça peut être les tornades, les ouragans, les feux, les tremblements de terre et autres, sont activés par un mauvais usage collectif de notre pensée. Hein, l'idée que les. On parle aussi parfois d'entités, que nos pensées seraient des formes d'entités qui agiraient sur les entités de la nature, d'autres formes d'entités. En tout cas, il y aurait un principe de symétrie, là, de relation.
Je m'interroge David sur la mémoire. Je me demande si la mémoire, ça serait une sorte de forme pensée de quelque chose qui a existé, qui serait maintenue en vie et à laquelle on pourrait, cette forme pensée, se rebrancher un moment lorsqu'on en a besoin.
Je pense que ça s'apparente à ça. C'est quelque chose dont on parle dans les enseignements sacrés, les enseignements anciens et la sagesse secrète, à savoir que l'espace. Donc, quand on dit maintenant l'espace, on comprend qu'il y a un espace multidimensionnel. L'homme est un être multidimensionnel, hein, de l'éthérique jusque dans des niveaux élevés, que cet espace donc est une sorte de pellicule sur laquelle, pardon, se dépose tout ce que l'on produit, tout ce que l'on crée. en Inde s'appelle l'akasha, qui est traduit souvent par espace d'ailleurs. Ça vient d'une racine kash qui veut dire briller. Donc c'est quelque chose qui brille, mais pas physiquement, hein, qui est éclairé, lumineux dans d'autres plans. Et c'est un peu comme le phénomène de la photographie, hein, comme des négatifs. C'est-à-dire une trace qui est laissée des événements, des pensées, des émotions, des sensations, de tout ce qui peut être produit. Et une trace est laissée sur cet espace, comme gravée, comme lorsqu'on grave quelque chose sur un CD. Et il semblerait même que la photographie, tout ce qui est téléphonique, radiophonique, tout ce qui est de l'ordre de la télécommunication, existe. Donc tous ces échanges d'infos existent parce que il y a cette capacité, cette lumière particulière qui s'imprime, qui laisse des traces, et c'est ce qui permet à des gens, par exemple, de faire des régressions, ou même nous-mêmes, on fait une forme de régression quand on va. Alors on parle parfois de lumière astrale, qu'il faut comprendre dans un sens très large, hein. C'est-à-dire même dans l'éthérique, dans l'émotionnel, dans le mental inférieur, il y a des niveaux akashiques encore plus élevés, hein, sur le plan de l'âme et autres, mais on pourrait aller chercher dans nos fichiers, donc dans des sphères de l'espace, on aurait une sorte d'enregistrement des choses qui se vivent. Donc peut-être que aussi les révélations des anciens prophètes et autres, sur le futur, même les choses qui vont se mettre en place, seraient en quelque sorte pré-imprimées. Ou des événements du passé sur l'histoire humaine ancienne. Et donc nous-mêmes, dans notre histoire, dans nos souvenirs, donc on a cette capacité d'aller fouiller, d'aller chercher quelque chose, quelque chose dans notre espace psychique. Et comme tu le dis, l'énergie suit la pensée. À ce moment-là, on le réveille et on a la fameuse Madeleine de Proust.
Et cette matière akashique, si on peut dire comme ça, je ne sais pas, ce n'est pas de la matière mentale alors? Ou c'est
elle
de la matière de différents niveaux?
Voilà, elle existe à tous les niveaux.
D'accord, à chaque niveau, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau mental, éthérique, il y a cette trace quelque part qui permet de retrouver la source de...
Par exemple, si vous avez eu un accident, une blessure, vous verrez qu'à certains moments, quelque chose revient dans votre corps. Elle est comme rappelée, réveillée. Pourtant, vous êtes guéri, vous avez plus mal. C'est l'idée du membre fantôme aussi. Hein, ceux qui ont perdu un bras, ils ont encore le double éthérique. Et il y a encore même cette empreinte. Donc on sent encore le membre, comme s'il était là. On a encore des douleurs même.
Mmh. Et ça, on dit pourtant d'habitude que c'est une activité nerveuse, tout simplement.
Mais il n'y a plus de nerfs. Quand le bras est coupé, c'est ça qui est vraiment curieux. Mais les gens ont la sensation d'avoir encore leur bras. Ils sentent le double éthérique qui reste. Donc c'est l'idée que voilà qu'il y a une empreinte partout. Donc la mémoire, pour moi, c'est la capacité de cet espace de mémoriser, de conscientiser, d'être une substance sensible sur laquelle on peut déposer des pensées, des émotions, des sensations.
Vivez conscient, ce thème d'aujourd'hui, la pensée, on a essayé jusqu'à présent de la définir, d'en voir les effets, et elle implique aussi une responsabilité. On va peut-être conclure cette émission sur ce chapitre-là de la responsabilité qu'entraîne notre capacité, nous les humains, de penser. Les bouddhistes parlent de cette notion de karma, hein. Donc le karma, ça serait cette loi qui fait que lorsqu'on engendre une cause, eh bien, on va supporter les effets de cette cause. Alors, peut-être pas dans cette vie-ci, mais dans la suivante. Et que c'est ce qui nous permet de progresser en tant qu'être humain, parce que si on est confronté aux réalités des conséquences de nos actes, eh bien, on va petit à petit corriger les actes en question et les améliorer, supposons-le en tout cas. Et ils disent qu'il y a trois sortes de karma, ou que le karma agit à plusieurs niveaux. Il agit au niveau des actions, c'est-à-dire chaque acte qu'on pose, chaque action qu'on mène, va avoir une conséquence sur le plan, on pourrait dire, assez direct, physique, quoi.
Karma, d'ailleurs, veut dire action. Donc on pourrait presque dire action physique, et puis après, les actions suivantes.
Et karma aussi au niveau de la parole. Donc chaque parole émise a un effet sur un autre niveau. Et karma aussi au niveau de la pensée. Chaque pensée émise va avoir, on l'a vu tout à l'heure, un effet quelque part sur le collectif, sur soi-même, sur le collectif ou sur la nature même. Et il semblerait que dans cet ordre-là, en fait, la puissance d'une parole est supérieure à la puissance d'une action, la puissance d'une pensée est encore supérieure à la puissance d'une parole ou d'une action, et que donc on est vraiment la responsabilité d'apprendre à comment dire, à travailler dans ce qu'on appelle l'innocuité, c'est-à-dire à agir de façon bienfaisante, bienveillante, de façon à ne pas générer de ce qu'on appelle de karma négatif, c'est-à-dire de ne pas générer d'effets qui nous seraient désagréables.
Donc on aurait une capacité inconsciente à produire des pensées qui seraient, selon toi, beaucoup plus destructrices que l'on pense,
Il est
que l'on
possible
croit.
que si on se branche sur des pensées collectives destructrices, par exemple, si on reprend l'histoire du nazisme, une pensée nazie émise au départ, une idée nazie émise au départ, reprise comme un idéal par quelques personnes qui ont une forte capacité à le partager par des paroles, et tout un peuple qui autour de ça reprend ces idées-là, ces formes pensées-là, sans trop veiller à l'impact que ça peut avoir, oui, je pense que ça peut avoir un effet collectif inconscient, enfin, sur l'inconscient collectif, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif, David, non?
Oui, tout à fait. Donc en fait, donc on a tous une responsabilité individuelle, donc forcément aussi collective. Donc on a à être un peu plus maître de sa maison. Est-ce que tu peux nous parler du silence? Pourquoi ça serait important de créer un espace de silence en nous?
Oui, les enseignements de sagesse ancienne parlent beaucoup du silence occulte, et qui serait un silence de la pensée, justement. Mais même avant d'arriver au silence de la pensée, il y aurait un silence au niveau de l'action, c'est-à-dire quelquefois ne pas agir parce qu'on générerait quelque chose de négatif, et un silence de la parole. Donc éviter, par exemple, la critique destructrice, la critique méchante, la critique qui n'a pour but que de se mettre soi-même en valeur, ou toutes ces mauvaises raisons de critiquer, hein,
Ou
doivent
alors ne pas
être.
parler, ça pourrait aussi parfois rentrer dans le cadre d'un mauvais usage de la parole, c'est-à-dire se taire là où il faudrait au contraire dire ce que l'on pense et.
Oui, parce que c'est pas simplement le fait de parler ou de ne pas parler, c'est l'énergie qui préside à cette prise de parole ou à cette non-prise de parole qui va avoir un effet. Donc on peut très bien se taire tout en pensant négativement vis-à-vis d'une personne, et ces pensées vont avoir un impact. Ça va se sentir même.
Donc qu'est-ce que serait le silence occulte, donc caché, le silence de la pensée? À quoi servirait-il?
Ben, ça serait justement essayer de maîtriser ses pensées pour essayer d'écarter un peu toute pensée, se débrancher de toute forme pensée qui serait destructrice, hein, oisive, négative. Enfin, je sais pas, faudrait donner des exemples peut-être, mais.
C'est notre agitation, en quelque sorte. On est constamment agité. Donc c'est le mental est comme des vagues. Et donc en fait, pour pouvoir capter des idées, voire même de l'intuition, il faudrait que on donne souvent cette image en Orient, que le lac soit calme pour que la lune puisse ou le soleil puisse s'y refléter. C'est ça l'idée. De créer vraiment de cesser ces flots continuels qui nous déstabilise, qui nous décentre. Est-ce que, Olivier, la méditation ne serait pas justement le moyen par excellence pour créer cet état de silence?
Alors, la méditation, en sens que c'est une activité qui a pour but de nous relier. Donc, quand je dis nous, ça va être la partie incarnée de nous-mêmes, hein, nos différents corps. Donc le cerveau, le corps émotionnel, le corps physique, le corps mental, relier cet ensemble-là à ce qu'on a appelé au début de l'émission l'âme, hein, ou la conscience qui s'incarne par un canal direct, hein, et qui va donc être, qui va court-circuiter toutes ces activités du mental et de l'émotionnel, et qui vont donc assez naturellement eux-mêmes se calmer, c'est comme devenir ultimement, évidemment, c'est un idéal, mais ultimement une sorte de lac tranquille.
C'est l'idée des bêtes sauvages que l'on dompte hein, dans les différentes traditions. Donc ça serait notre flux énergétique, émotionnel, mental, on le calmerait. Et il y a l'idée de cette lumière qui descend jusque dans le cerveau et qui crée cette radiation qu'on voit autour du Bouddha ou autour des saints. Hein, donc ça représente la lumière de l'âme. Et pour que cette lumière puisse descendre, on peut bien penser et comprendre que le silence est important.
On peut aussi travailler ce qu'on appelle le détachement dans ces enseignements de sagesse. Le détachement, donc la non-identification, en l'occurrence, puisqu'on parle des pensées, de nos pensées, enfin, des pensées qui nous traversent. Déjà, peut-être justement ne pas dire nos pensées, mais dire les pensées comme quelque chose d'extérieur à soi, parce que c'est une certaine réalité, en fait. Et de les regarder d'un œil d'observateur, de ne pas les suivre, les laisser passer, et puis de se recentrer sur ce qu'on a à faire à un moment donné.
Et pas s'en sentir forcément propriétaire, pas s'identifier non plus à, par exemple, je suis bouddhiste, par exemple, j'aime le bouddhisme, donc je suis bouddhiste, donc on commence déjà à créer quelque chose
Créer des
de
idéologies,
s'enfermer
oui.
dans sa pensée.
Et puis aussi ne pas créer de culpabilité ou de désir par rapport à ses pensées. Si une pensée qu'on juge négative, c'est du jugement aussi tout ça, parce que passe ne pas l'alimenter par une réaction émotionnelle à cette pensée-là.
Pas créer une pensée de la pensée, hein.
Oui.
C'est-à-dire l'observer. Donc ça, c'est encore la notion du divin observateur, hein, que
Donc pas
l'on.
de culpabilité ou pas de même pas de jugement même sur cette pensée qui passe. Hein.
Et la sincérité, Olivier, quel rôle est-ce qu'elle serait importante également
Je dirais le
dans ce
mot honnêteté,
processus?
moi, le mot honnêteté, voir les choses comme elles sont, quoi, accepter de voir les choses comme elles sont, les dire comme elles sont, oui, c'est une sorte de sincérité qui contribue au détachement d'ailleurs. Si je dis les choses comme elles sont, elles arrêtent de m'affecter, je vois la vérité comme elle est, aussi crue que je puisse la voir, et aussi sincère.
Donc pour se vivre en conscience, pour se vivre comme une âme, on a besoin donc de se libérer, d'utiliser, hein, nos sensations, nos sentiments, nos pensées, mais de ne pas en être esclave. C'est ça un petit peu l'idée générale, qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui. On n'est pas, ce sont des outils, on n'est pas ça, on est quelque chose de plus grand, de plus profond, et en faisant silence, en pratiquant, comme tu nous dis, le détachement, on peut commencer à vivre, à sentir cette présence profonde en nous.
Je pense qu'on a essayé, à travers ce qu'on a pu dire dans cette émission, montrer quand même la différence qu'il y a entre le cerveau et la pensée.
Et entre l'âme, la pensée et le cerveau.
Parce que généralement, dans la science moderne, on fait un peu un amalgame entre l'activité cérébrale et la pensée. Et je crois que c'est utile d'avoir en tête ce schéma explicatif, un autre schéma explicatif de ce que c'est que l'activité mentale.
Et la conscience ou le penseur qui n'est pas la pensée, une autre idée encore plus profonde. Eh bien, merci Olivier, merci à tous,
Merci David.
et on se retrouve le mois prochain.